So it's person, woman.
Ce petit chat est une sorte de résumé mythique des conflits.
Fillon, voilà, il est en face de moi.
Person, woman, man, camera, TV.
Madame Khatija m'impressionnait parce qu'elle avait l'habitude de s'asseoir avec les hommes et de discuter avec eux de sujets littéraires et culturels. Dans le même temps, je remarquais à quel point les femmes incultes tremblaient d'embarras et de crainte lorsque, cachées derrière une teinture, elles avaient à échanger quelques mots avec un homme. À observer Madame Khatija, j'ai acquis la conviction qu'en se cultivant, les femmes pourraient devenir les égales des hommes et peut-être même les surpasser.
Alors ces mots sont extraits des mémoires de Houda Charaoui, l'icône du féminisme égyptien, parce que oui, l'Égypte est le berceau d'un important mouvement féministe, tant par son ampleur que par ses fondements historiques et théoriques. En Égypte, la nature des mouvements féministes est fortement liée à la question des régimes politiques qui ont façonné le pays de son indépendance jusqu'à aujourd'hui, et la question de nos jours de la place des femmes en Égypte présente des visages différents. D'un côté, une discrimination systémique qui frôle parfois la répression, comme par exemple lors des manifestations de 2011, durant lesquelles des manifestantes ont subi des tests de virginité forcés. De l'autre, un mouvement féministe qui monte, où des militantes n'hésitent plus à prendre la parole pour leur cause, quel qu'en soit le prix, où, peu à peu, les tabous et les interdits tombent. Et dans cet épisode, c'est cette question qu'on va aborder. Comment se forme, au fil des siècles, une des contestations les plus organisées à l'échelle régionale ? Eh bien, c'est de ce dont on va parler dans ce podcast. Bienvenue dans La Loupe, merci d'écouter ce deuxième épisode. Ce sujet, on va le diviser de manière historique, de manière chronologique, en plusieurs parties, et on va commencer par l'indépendance égyptienne un peu avant et un peu après, et la figure qu'on vient de citer de Houda Charaoui, qui est une grande figure féministe indépendantiste. Alors, les premiers mouvements féministes égyptiens sont apparus en même temps que les mouvements nationalistes. À ce moment-là, l'Égypte est sous tutelle britannique depuis 1879, et des mouvements nationalistes qui dénoncent le colonialisme commencent à se former. À ce moment-là, la lutte des femmes était avant tout anticoloniale, et c'est dans ce cadre-là que certaines revendications, notamment concernant l'égalité des sexes, vont commencer à être prononcées. Un des précurseurs du féminisme en Égypte et dans les pays dits arabes fut Kazim Amin, qui écrit La libération des femmes en 1899, un ouvrage dans lequel il revendique la reconnaissance de la femme comme égale de l'homme et souligne la nécessité de les impliquer pleinement dans la société. Le développement des idées et des mouvements féministes se fait dans un premier temps dans la haute société occidentale présente en Égypte. Suivant leurs statuts sociaux, les femmes n'avaient pas les mêmes contraintes. Par exemple, le port du voile à cette époque est réservé aux femmes de la haute société. Et donc parmi ces figures importantes à cette époque-là, il y a évidemment Houda Charaoui dont on a beaucoup parlé, et Noïsa va continuer à nous parler.
La chose la plus importante qu'on doit dire sur ce personnage, sur Houda Charaoui, c'est que son combat féministe pour l'égalité des sexes, le droit à l'éducation pour les jeunes filles, la limitation du mariage précoce et l'abolition de la polygamie est d'abord très fortement influencé par son propre vécu, et notamment par son enfance. Donc Houda Charaoui a grandi dans un harem, je vous invite d'ailleurs fortement à vous renseigner sur ce qu'est un harem à cette époque-là, c'est très, très intéressant, et elle fut mariée à l'âge de 13 ans à son cousin, et elle-même n'a pas eu le droit d'apprendre la grammaire arabe, c'est par exemple le texte que je vous ai lu au début de cet épisode a été dicté par Houda Charaoui à un secrétaire. Jusqu'en 1923, elle mène une vie d'une de femme de son rang, et 1923 est un grand tournant pour cette femme puisque elle décide pour la première fois de se dévoiler en public. Mais son combat féministe ne commence pas en 1923, elle est déjà beaucoup engagée avant, donc notamment elle fonde une institution avec une connotation quand même assez nationaliste qui vise à rassembler le peuple au-delà des divisions sociales et religieuses. Et son combat principal à cette époque-là est l'accès à l'éducation pour les filles, qu'importe leur statut social. De plus, elle s'engage dans la lutte anticoloniale. Elle fut la présidente de The Waft Women's Central Committee. Donc c'est l'une des branches du parti Waft, je sais pas si je le prononce correctement, qui est le principal acteur en fait de la lutte anticoloniale à cette époque-là. Seulement, après la révolution de 1919, donc l'accès à l'indépendance pour l'Égypte. Le comité The World Woman Central Committee se sépare du parti central, donc du WAFT.
Pourquoi ?
Bah, parce que les femmes ne furent pas invitées aux négociations avec les Britanniques. À cette époque-là, Houda Charaoui évolue dans une sorte d'élite intellectuelle composée de femmes. Et cette élite, elle s'est formée à la fin du 19e, au début du 20e siècle. Par exemple, l'année 1892 est marquée par l'apparition du mensuel Al-Fatha, qui signifie la jeune fille, et qui est créé par Hind Nafwal. En 1923, Houda Charaoui fonde l'Association intellectuelle des femmes égyptiennes, et donc au travers de cette association, elle prône un féminisme nationaliste qui rassemble toutes les femmes égyptiennes, peu importe leur religion. En parallèle, elle fonde aussi un autre magazine mensuel en langue française qui s'appelle L'Égyptienne, et donc c'est à travers leur propre presse, on remarque l'importance de la presse, parce que c'est grâce à cette presse indépendante qu'elles arrivent à diffuser leurs idées. Donc, de la même manière que ce fut le cas en France au temps des Lumières, les femmes égyptiennes ont commencé donc à se réunir dans des salons littéraires. Le plus connu d'entre eux fut celui de Mai Ziada et de Ginny Leprin. On y discutait de politique, on débattait de la situation sociale du pays, mais ces salons étaient avant tout ouverts à une certaine élite sociale. Et donc en même temps, les femmes de rangs sociaux moins élevés continuaient ce combat à leur manière, en étant le pilier notamment de nombreuses actions caritatives, et c'est donc elles qui ont en fait en gros posé les fondements de l'état social égyptien. Et donc au cours des années 1920-1930, les mouvements féministes ont réussi à ouvrir un accès aux études supérieures pour un grand nombre de jeunes filles.
Discours de Kamal Abdel Nasser en 1956. Donc là, dans cette première partie, on a vu tout ce qui s'est joué au moment de l'indépendance de l'Égypte et au moment de la constitution de l'Égypte nouvellement indépendante. Et dans un second temps, il va falloir parler d'un des personnages les plus marquants du XXe siècle égyptien, c'est Gamal Abdel Nasser, à la tête d'un État socialiste autoritaire, mais d'une certaine idée de l'émancipation de la femme. Donc la révolution de 1952, grâce à laquelle Gamal Abdel Nasser devient président de l'Égypte, 2 ans plus tard, en 1954, apportera avec elle un tournant majeur pour les mouvements féministes. Avec un gouvernement qui prône un État progressiste sur la voie du développement et de la sécularisation, la situation des femmes s'améliore. Elles acquièrent des droits politiques, des droits économiques, et Nasser instaurera un féminisme d'État. Alors qu'est-ce que le féminisme d'État et quelles en sont les conséquences ? On va pour ça vous lire la définition qu'en donnent deux universitaires, Omaima Aboukar et Mona Gérardin-Laverge, dans leur article « Le féminisme islamique et l'ambiguïté de l'engagement politique » en 2015.
Donc la définition que ces deux universitaires nous donnent est la suivante. Dans l'ensemble, les femmes ont peut-être bénéficié de politiques publiques en matière d'éducation, de travail et de participation publique, en tant qu'elles faisaient partie du projet de construction nationale et citoyenne. Mais cela s'est aussi fait au détriment de leur propre autonomie.
Si ces réformes améliorèrent la vie des femmes au quotidien, Nasser n'entendait pas autoriser toutes sortes de pluralisme politique, quel qu'il soit. Donc il interdit de nombreux mouvements féministes indépendants, comme celui d'Houda Charaoui, et autorise l'existence seulement des mouvements contrôlés par l'État. D'un autre côté, la situation de la femme en tant que citoyenne s'améliore quand même. En 1956, l'égalité homme-femme est inscrite dans la Constitution. Et les femmes acquièrent le droit de vote et d'éligibilité. Dans un souci de développer son pays, Nasser encourage l'éducation et la formation des jeunes filles et les incite à prendre part à la vie économique.
Ça a l'air très progressiste comme ça quand on entend cela, mais j'aimerais ajouter que de nombreux domaines tels que la justice ou la diplomatie restaient encore fermés aux femmes. Et donc d'après Mervad Hatem, un autre universitaire, le féministe d'État de Nasser a créé et a organisé un espèce de système un système patriarcal public, quoi.
Ou presque de service public, puisqu'on traduit la citation en anglais. On vous invite à lire l'article et à nous faire part de vos possibles corrections de traduction. Mais est-ce que concrètement, ça a permis un progrès sociétal concernant la place des femmes au quotidien ?
Si les femmes ont, à cette époque, obtenu une plus grande place dans la vie publique, ce ne fut pas forcément retranscrit dans la vie privée. La société était encore très attachée aux traditions et à la religion, et les femmes ont eu énormément de mal à s'émanciper dans un cadre privé et familial, et donc elles restèrent de ce côté-là très dépendantes des hommes. Donc, cette situation peut paraître un peu contradictoire, on pourrait penser que les femmes auraient pu se servir de leurs nouveaux droits civils et économiques pour s'émanciper au sein du cadre familial, mais ce ne fut justement pas le cas parce que il y a tout cet attachement aux traditions et à la religion notamment, qui est un peu plus compliqué, enfin un peu différent de ce qui se passe dans certains pays européens.
Là-dessus, certains universitaires parlent même d'une schizophrénie de la femme arabe. Speech.
Speech.
Discours de Sadat en 1973. Gamal Abdel Nasser meurt en 70. Et c'est Anwar El Sadate qui arrive au pouvoir. Nouvel homme, nouvelle politique, El Sadate met entre autres fin au féminisme d'État de Nasser. Dans le contexte de guerre froide, il va privilégier une politique plus libérale et donc plus orientée vers le bloc de l'Ouest, surtout en matière économique. Il va donner entre autres une très grosse souplesse au secteur privé, et notamment en pratiquant la politique dite de la porte ouverte, en arabe de l'intifa. Je fais une toute petite parenthèse pour bien préciser que ça n'a rien à voir avec l'intifada, évidemment, qui est le nom qu'on donne aux guerres israélo-palestiniennes. Fin de la parenthèse. Seulement, cette politique a eu de fortes conséquences sur la population égyptienne. L'écart entre les plus riches et les plus pauvres s'amplifie, et on assiste à une croissance du chômage exponentielle, qui rendit la situation des femmes sur le marché du travail plus difficile.
C'est ici qu'il est très intéressant de citer Nawal Saadawi, une écrivaine et une activiste pour les droits des femmes. Et donc, elle raconte à Sarah Garen Brown, une universitaire, « They had provided a lot of work opportunities for women and equal pay. Unemployment is increasing, and when you have a society like that, with fewer jobs, who takes the jobs? The men, the breadwinners. » Et donc, pour cet activiste, la politique de l'Intifa représentait un vrai retour en arrière pour les classes sociales les plus vulnérables, puisque la loi interdisant le travail d'enfants, par exemple, n'était plus que de l'encre sur du papier, étant donné que de nombreux enfants furent envoyés dans les usines pour gagner un peu d'argent. Quant aux femmes, elles perdaient soit leur indépendance économique, soit alors elles se retrouvaient obligées de prendre le travail de leur mari qui était parti à l'étranger.
On écoute une interview de 2011 de Nawal Saadawi, justement sur la question des inégalités économiques entre hommes et femmes.
Women are ready for equality because it's for benefit. But men are resistant because equality against their interests. And if you have class oppression and poverty, you cannot have democracy. Because democracy means economic equality, social equality, political equality, everything equality.
Du point de vue économique et intellectuel, la politique d'Anwar El Sadate profite seulement aux classes élevées, aux riches, aux élites, tout ce que vous voulez.
Et c'est donc d'ailleurs aussi à la même époque qu'on a assisté à une espèce de popularisation des partis islamistes.
Oui, en effet, à la fin des années 70, des mouvements de contestation gagnent la rue. Et parmi eux, les islamistes. La politique d'El Sadate a eu pour conséquence la montée en puissance de ce groupe religieux. La libéralisation du pays et les accords de Camp David en 1978 avec Israël était vu comme l'ultime trahison de cette date, et c'est aussi la fin de la légitimité entre guillemets de l'Égypte à se présenter comme leader du monde arabe selon eux. Et donc, durant les manifestations dont on parlait, qui débutent en fait un an plus tôt en 77, il y a une politisation des étudiants, ils mènent des actions contre le gouvernement les réprime avec une répression massive envers la gauche socialiste et pro-Nasser, et c'est à cette occasion que de nombreuses femmes, temporairement du moins, se transforment, pour certaines d'entre elles pour la première fois, en féministes activistes. Et il faudrait être encore plus spécifique sur leur rôle dans ce mouvement.
Donc c'est là que la chercheuse Nadj Al-Ali va beaucoup nous aider. Elle a interviewé de nombreuses femmes ayant pris part à ces actions contre le gouvernement. Elle a retranscrit notamment la manière dont les mères de famille ont soutenu les étudiants activistes. Par exemple, elles les ont cachés quand ils étaient poursuivis par la police, elles ont fait passer des lettres en prison ou des choses comme ça. Et donc grâce à cela, ces femmes ont développé une certaine confiance en elles et ont pu d'une manière et ont pu d'une certaine manière aussi s'émanciper au sein de leur propre foyer. Donc quant aux étudiantes, elles ont commencé à s'opposer à certaines normes morales qui régnaient dans la société. Par exemple, elles se sont appropriées des espaces normalement réservés aux hommes tels que les bars.
Et le gouvernement a réagi comment ça ?
Afin de calmer la population, le gouvernement présenta une proposition de loi, The Personal Status Law, donc la loi du statut personnel, de 1979. D'une manière générale, ce texte représente une avancée en matière de droits des femmes. Il y a des choses comme l'âge légal du mariage qui passe de 16 à 18 ans. Elles obtiennent un peu plus de droits, notamment en cas de divorce, puisqu'elles peuvent à présent demander la garde de leur enfant, qui avant était un droit réservé à l'homme. Et avec cette nouvelle loi, le gouvernement, il espère avant tout gagner le soutien des femmes et aussi regagner sa légitimité face au peuple. Seulement, il existe un problème, c'est que ce texte est surnommé The Jihan's Law, et en fait, il a été rédigé par Jihan al-Sadat, qui est la femme du président. À travers l'instrumentalisation de cette loi, pour tenter de regagner la confiance du peuple, le gouvernement perd ainsi toute crédibilité. Donc, bien que cette loi était une avancée signifiante pour les droits des femmes en Égypte, elle n'impacte pas assez la population pour les faire changer d'avis sur la politique de Sadat.
Quand Sadat meurt dans un attentat en 1981, il lègue à Hosni Moubarak un pays plongé dans de grosses difficultés sociales et politiques. À cette époque, les islamistes avaient une forte présence politique, et la mise en place d'une sorte de consensus avec eux va encore augmenter leur pouvoir politique et leur légitimité. Étant contre la loi dite du statut personnel, mise en place par Sadat, loi qu'il juge anti-islamique, ils ont promu son abolition en 1985. L'État ne s'est pas opposé à cette abolition, la loi était toujours aussi peu aimée par la population, et le gouvernement chercha un moyen d'acheter la paix sociale. Tiens, on dirait du Supreme NTM ce que t'as écrit un peu. Mais voilà, la même année s'est tenue la conférence internationale des femmes à Nairobi. Cette abolition fait une très mauvaise presse à l'Égypte. Et résultat, le gouvernement de Moubarak va proposer une version réformée de la loi du statut personnel qu'ils avaient laissé se faire abolir.
Et du coup, est-ce que tu pourrais peut-être nous présenter cette nouvelle version ?
J'allais dire avec plaisir, peut-être pas. Oui, donc cette nouvelle version de la loi restreint quand même plusieurs droits des femmes et des droits importants. En cas de divorce, c'est le juge qui devient seul arbitre et qui a le droit de décision. Et c'est donc la société qui reprend une place d'arbitre. La femme avait donc perdu le droit de plaider sa cause. Cette réforme va aussi relancer le débat au sein de la société égyptienne. Nawal Sadawi, dont on parlait tout à l'heure, a défendu la version mise en place par Sadat, alors que The Committee for the Defense of Rights of the Woman and the Family soutenait la mise en place de la version réformée. Une loi garantissant une partie des sièges parlementaires aux femmes fut également abolie, et elles perdirent ainsi leur accès à la sphère politique. Le principal argument pour cette abolition fut le suivant. Cette loi ne garantissait pas l'égalité des sexes, mais elle offrait un avantage aux femmes. Selon Moubarak, les femmes sont assez fortes pour se défendre face aux hommes. Et c'est comme ça que l'État égyptien laisse complètement tomber le féminisme d'État.
Donc la part des femmes au Parlement a aussi été en chute libre. En 1984, elles étaient environ 90, et en 1990, elles n'étaient plus que 10. Enfin, l'abolition de ces deux lois a lieu après que l'Égypte ait ratifié en 1981 The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, ce qui est un peu contradictoire. Les femmes cependant continuèrent leur combat à travers de nombreuses ONG. Par exemple, Nawal Sadawi milita en faveur de la libération sexuelle des femmes et contre l'ignorance de leur propre corps. Elle a écrit et elle a parlé de nombreux thèmes qui étaient peu abordés, voire tabous, comme le sexe et le viol. Il y avait aussi une polarisation au sein de la société féminine égyptienne, si je peux le formuler comme ça, que pour les plus âgés, Nawal Sadawi est une référence en matière de féminisme, mais les plus jeunes sont beaucoup plus critiques à son égard, et beaucoup la trouvèrent beaucoup trop occidentale et trop radicale. Sadawi aussi soutenait d'autres groupes d'action féminins tels que le Bint al-Ard, qui à l'origine a été créé pour protester contre l'invasion du Liban par Israël. Et en fait, après, ce groupe s'est tourné vers la défense des droits des femmes dans la société, mais aussi dans l'islam. Des groupes de femmes se sont également créés au sein des mouvements islamistes, notamment au sein des universités. Les groupes islamistes, eux, étaient répartis en fonction des sexes. Les femmes étaient d'un côté, les hommes de l'autre. Mais on observe quand même que les hommes restaient les leaders, les chefs. Une des femmes qui devint cependant une figure importante de ces mouvements était Zainab al-Razali. Elle créa et présida The Association of Young Muslim Women, Jamiat al-Shabat al-Muslimat. Sa critique se dirigeait avant tout vers les organisations féministes séculières. Donc, selon elle, les femmes avaient le droit de vivre selon les règles de la charia, donc la loi religieuse. Elle n'est cependant pas aussi conservatrice qu'il n'est paraît. Pour elle, l'islam n'est pas contraire à l'indépendance économique des femmes, ni à leur droit de l'éducation. Donc ici, j'essaie de vous montrer la pluralité de l'organisation des femmes au sein de la société égyptienne, mais aussi un peu dans les autres pays, comme là, avec Bent al-Ard au Liban.
À travers toutes ces explications, j'espère qu'elles n'ont pas été rébarbatives pour personne. L'idée, ça a été de répondre à deux questions. La première, c'est comment s'organise vraiment les mouvements féministes ailleurs que chez les Occidentaux, les autres, ceux qu'on entend moins, au-delà de la figure des icônes, comme Houda Charaoui ou d'autres figures très connues, comment se structurent ces mouvements-là et également d'où part cette organisation dans un pays, sur quel terreau se base-t-elle et quelle est son histoire. Donc évidemment, c'est un panorama qui était très généraliste. Et nous vous invitons évidemment à nous faire part de n'importe quel commentaire, correction ou remarque, question, puisque c'est une présentation, je dirais, très basique, mais qui me semble importante parce qu'elle nous permet de voir de manière beaucoup plus globale et précise ce qu'on voit, nous, souvent comme des faits qui se passent loin, ou alors qu'on ne prend pas tant le temps d'analyser que ça. En fait, c'est presque la définition de ce qu'on essaye de faire dans ce podcast. Et j'espère que d'une manière ou d'une autre, vous en tirez quelque chose. N'hésitez pas à nous en faire part sur tous les réseaux sociaux, également sur notre adresse mail, que je répète, alaloupepodcast@gmail.com, sans majuscule, sans accent, tout attaché. Et puis, il nous reste à vous remercier d'avoir suivi cet épisode et on vous dit à très bientôt.
À très bientôt pour un prochain épisode, on l'espère bientôt.
Ouais, on espère bientôt et on va faire tout notre possible malgré les problèmes techniques. On s'excuse encore une fois des sons qui ne sont pas toujours top. Voilà, on fait avec la technique, mais surtout avec le cœur. À très bientôt.
À très bientôt.